L'intelligence artificielle est un savoir-faire ou une science grâce à laquelle des machines vont exécuter des tâches qui ont besoin de l'intelligence humaine pour être effectuées.
The thinking machine.
Can machines really think? I'm David Wayne, and as all of you are, I'm concerned with the world in which we're going to live tomorrow. A world in which a new machine, the digital computer, may be of even greater importance than the atomic bomb.
Back in the day,
à l'époque où on a inventé les premiers ordinateurs, on s'est dit, pourquoi ne pas en faire des machines intelligentes? Alors, pour comprendre ce que ça signifiait, on s'est penché sur notre propre définition de l'intelligence. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est intelligent? C'est une notion qui a grandi pendant des milliers d'années dans le domaine philosophique et plus récemment dans le domaine économique. Une personne est intelligente si on peut attendre de ses actions qu'elles parviennent à leur objectif. C'est cette notion qu'on a décidé d'appliquer et on a construit des machines qui savent très bien atteindre les objectifs qu'on leur assigne. C'est le paradigme sur lequel s'est construit le développement de l'intelligence artificielle depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis les années 40.
Les guerres génèrent des milliers de morts et sont propices aux avancées technologiques. La Seconde Guerre mondiale a notamment accéléré le développement du radar, de la pénicilline, des moteurs à réaction, de la bombe atomique et des ordinateurs. Dans l'océan Atlantique, les sous-marins allemands ont infligé de lourdes pertes à la flotte alliée. Grâce à un système de communication réputé inviolable et connu sous le nom d'Enigma, les sous-marins allemands ont réussi à torpiller plus de 2500 navires alliés. Alan Turing, grâce à sa toute nouvelle machine électromécanique, est parvenu à décoder les messages émis par la marine allemande. Cette invention a donné aux Alliés un avantage spectaculaire et leur a permis d'être prêts à temps pour le débarquement de Normandie. L'invention de Turing a mené à la création du premier ordinateur électronique programmable, ce qui lui a valu le titre de père de l'informatique et a posé les bases de l'intelligence artificielle.
Pour moi, l'intelligence artificielle ne constitue qu'un pas vers l'intelligence humaine augmentée. Même s'il existe plusieurs façons de mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que notre objectif ultime est d'améliorer la vie des gens grâce à la technologie. J'ai commencé à participer à des concours de mathématiques à l'école primaire. En Russie, c'était très courant. Et je me demandais tout le temps ce qui faisait qu'on pouvait trouver ou pas la solution à toute une liste de problèmes pendant 2 heures de temps. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Pourquoi parfois je trouve la solution? Pourquoi mon voisin ne la trouve pas et inversement? Où est la différence? On va dans la même école, on est dans la même classe. D'où vient cette différence et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et puis à l'âge de 14 ans, je suis tombée par hasard sur un livre qui s'appelait « Les machines peuvent-elles penser ?» Alors j'ai voulu savoir comment on pouvait devenir plus intelligent. J'adorerais améliorer notre niveau d'intelligence artificielle, mais pour moi ce n'est qu'une étape intermédiaire, ce n'est pas un objectif en soi.
Quel est l'objectif?
L'objectif, c'est d'augmenter l'intelligence, la qualité de l'intelligence augmentée.
Je pense que l'intelligence, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui permettent de mesurer les capacités d'un être humain. Il y a l'intelligence théorique, l'intelligence pratique, l'intelligence sociale. Une forme assez générale d'intelligence peut se définir par la capacité de quelqu'un à atteindre une grande diversité d'objectifs dans une grande diversité d'environnements. C'est ça l'intelligence, en tout cas dans son acception la plus courante actuellement. Et c'est évidemment ce qu'on ne voit pas encore dans les systèmes d'intelligence artificielle. Ils sont dotés d'intelligences étroites qui ne fonctionnent que pour un objectif particulier, dans un environnement particulier.
Pendant des décennies, des scientifiques ont essayé de fabriquer des machines intelligentes en mettant directement du savoir dans des ordinateurs. C'est ce qu'on appelle la programmation. Malheureusement, il existe des choses que nous savons, mais auxquelles nous n'avons pas accès de façon consciente. C'est le savoir intuitif.
L'intuition est une capacité extraordinaire qui nous permet de réagir sans réfléchir, d'acquérir de la connaissance ou de répondre sans avoir besoin de raisonner consciemment. Alors comment écrit-on un algorithme pour quelque chose auquel on n'a pas accès de façon consciente ?
En fait, les êtres humains disposent d'une vieille bibliothèque logicielle de programmes qui se sont développés au fur et à mesure de l'évolution. Les émotions ou les sentiments sont des programmes très anciens qu'on utilise souvent sans avoir aucune conscience de ce qu'on est en train de faire.
Pour égaler l'intelligence humaine, il va nous falloir de nouveaux logiciels capables de comprendre parfaitement les algorithmes, ce qui permettra de se hisser au niveau de l'intelligence humaine et même au-delà. Et ça, c'est un casse-tête qui relève plutôt des sciences cognitives, de l'informatique, des mathématiques et peut-être même de la philosophie. Ça nécessite de comprendre les processus de l'esprit humain et d'être capable de les coder d'une façon ou d'une autre. Je pense que le cerveau est une machine et que cette machine doit pouvoir être imitée par un ordinateur. Je ne vois pas pourquoi l'intelligence humaine ne pourrait pas être informatisée. Et si jamais on pouvait y arriver, il faudrait s'attendre à ce que l'intelligence artificielle puisse égaler l'intelligence humaine, voire même la dépasser.
Le domaine artistique réfléchit régulièrement aux évolutions futures de la société, de la culture et même des sciences. Il suffit de penser à Mondrian, dans les années 20, qui fut un précurseur de l'effet pixel. De nos jours, les mégadonnées, l'apprentissage automatique et la recherche avancée en intelligence artificielle sont autant d'outils aux mains d'artistes visionnaires.
En utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique, je me suis dit que les machines pouvaient rêver, nous montrer des récits invisibles à base de données et imaginer des réalités alternatives. Je m'appelle Refik Anadol, je suis artiste et designer des nouveaux médias. Pour réaliser mes œuvres, j'utilise des données à la place des pigments de couleur, ainsi qu'une sorte de pinceau pensant grâce à l'intelligence artificielle. Mon travail se situe à l'intersection de l'art, de l'architecture, de la science et de la technologie. Je m'inspire aussi de la nature et de la façon dont tous ces outils peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes de l'humanité. Mon travail pose les questions suivantes. Une machine peut-elle apprendre? Peut-elle devenir consciente? Peut-elle même rêver?
Dans l'hypothèse où les machines deviendront un jour plus intelligentes que les êtres humains, il faut bien comprendre qu'au-delà d'être intelligentes, elles auront toute la capacité de passer à l'échelle. Et je crois que c'est là où nous devons faire un effort d'imagination. Une fois que les machines sauront lire un livre, elles sauront lire tout ce que l'humanité a jamais écrit. Elles sauront intégrer des informations dans toutes les langues qui ont pu exister à travers l'histoire, y compris des langues que nous ne comprenons pas. Elles sauront aussi établir des liens entre les différentes connaissances. C'est un outil qui pourrait profondément bouleverser l'humanité. Un tel système aurait une vision bien plus complète de ce qui se passe dans le monde. Ça pourrait nous servir à anticiper l'évolution de tout un tas de domaines. Et ça nous permettrait d'accéder à notre propre savoir d'une façon qu'on n'a encore jamais expérimentée.
Théoriquement, si l'intelligence artificielle égale un jour l'intelligence humaine, il sera possible de ne plus être malade, de résoudre la crise climatique et d'éradiquer la faim et la pauvreté. Une sorte de retour au jardin d'Éden. Mais un tel événement pourrait aussi entraîner la disparition de l'humanité en raison de l'accélération de l'évolution technologique qui pourrait mener à une explosion de l'intelligence.
L'explosion de l'intelligence est une expression qui apparaît dans un article d'Irving John Good en 1965, où il écrit que la première machine ultra-intelligente sera la dernière invention que l'homme aura besoin de faire.
And I started off by banging a gong by saying the survival of humanity depends on the early construction of an ultra-intelligent machine. But I also realized that this was also dangerous, that such a machine, if we weren't careful, would take everything over, an idea that's been taken up in science fiction, of course.
Toutes les machines d'intelligence artificielle poursuivent des objectifs. Et une façon d'y parvenir, c'est de créer une meilleure version de soi-même.
En 1968, Kubrick a invité Irving John Good sur le tournage de 2001, afin que celui-ci puisse le conseiller sur l'un des personnages les plus complexes du film, HAL 9000.
Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Quand une machine dépasse un certain seuil d'intelligence, elle peut alors concevoir son propre successeur.
Cette machine plus intelligente va concevoir à son tour une machine encore plus intelligente. L'explosion de l'intelligence est un cycle récursif dans lequel des machines créent elles-mêmes d'autres machines toujours plus intelligentes, en suivant une évolution exponentielle jusqu'à créer une super-intelligence. Et quand elles seront plus intelligentes que les humains, nous serons très vite dépassés.
Professeur.
C'est exactement ce qui se passe dans le film Transcendance. Johnny Depp est sur le point de mourir et ses collègues transfèrent le contenu de son cerveau dans leur superordinateur quantique. La machine devient alors super intelligente. Très rapidement, elle parvient à concevoir de nouvelles versions d'elle-même, qui sont bien plus puissantes, afin de résoudre des problèmes du domaine médical et scientifique. Le danger, bien sûr, c'est que personne ne sait si les motivations de la machine sont toujours celles de Johnny Depp ou si ce sont celles d'une nouvelle entité en qui on ne peut pas avoir confiance.
Can you prove you're self-aware?
That's a difficult question, Dr. Tiger. Can you prove that you are?
On fabrique des machines toujours plus grosses, plus rapides, plus puissantes et plus intelligentes. On améliore les algorithmes, on fait des avancées conceptuelles, on augmente les capacités de mise à l'échelle. On se dirige aussi vite qu'on le peut vers une utilisation généralisée de ces machines intelligentes sans réfléchir à la façon dont on va les contrôler. Ce modèle, qui consiste à spécifier des objectifs et à les mener à bien, est extrêmement dangereux. Quand les machines sont idiotes, le danger est moindre. Quand elles ne sont destinées qu'à des laboratoires, quand elles ne font que jouer aux échecs ou empiler des boîtes les unes sur les autres, il ne peut rien se passer de grave. Mais dans le monde réel, comme on le voit déjà, on se retrouve avec des algorithmes entraînés à manipuler les utilisateurs des médias sociaux grâce au choix des contenus qu'ils proposent. Quand on spécifie mal un objectif, la machine s'approprie cet objectif tel qu'elle le comprend, et on en subit les conséquences. Imaginez que vous ayez un robot domestique. Vous sortez tard du travail, le robot doit nourrir les enfants ont faim, il n'y a rien dans le réfrigérateur. Et le robot voit votre chat. Le robot n'a pas encore appris correctement ce qu'est la valeur humaine. Il ne comprend donc pas que la valeur sentimentale du chat dépasse sa valeur nutritionnelle. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la chose suivante. Un robot fou fait cuire un chat pour préparer un repas familial. Cet incident pourrait constituer à lui seul la fin de l'industrie des robots domestiques. Alors, il serait intéressant de régler ce genre de fonctionnalité avant de réussir à créer des machines super intelligentes. Si on prend, par exemple, un objectif qui semble assez raisonnable, comme le retour à un niveau d'émission de CO2 similaire à celui de l'ère pré-industrielle. Quelle est la manière la plus facile de réduire les émissions de CO2? C'est de se débarrasser de ce qui produit du CO2. En l'occurrence, nous. Donc, pour résoudre le problème climatique, il faut se débarrasser des êtres humains. Le modèle standard de machine dans lequel on spécifie des objectifs afin de trouver des solutions optimales va probablement se révéler catastrophique sur le long terme.
Mais si on développe une intelligence artificielle plus consciente, et si on arrive à mettre en œuvre un fonctionnement cognitif plus développé dans cette intelligence artificielle, celle-ci va probablement se montrer plus prudente dans le choix des ordres qu'elle va exécuter. Si une machine dispose d'un tel niveau de conscience et qu'elle est équipée d'un biais de compassion, elle cherchera certainement à repérer les mauvais usages dont elle pourrait être à l'origine.
On ne veut pas que ces machines soient plus humaines parce que les humains agissent en fonction de préférences qui leur sont propres. Il est tout à fait légitime qu'un être humain se comporte de façon à satisfaire ses préférences, même si celles-ci vont parfois à l'encontre de celles des autres. Mais il n'est pas souhaitable qu'une machine ait ses propres préférences. Le seul but des machines devrait être d'aider les humains à réaliser leurs préférences.
Une machine ayant ses propres préférences est au centre du film Ex Machina, qui propose une version du créationnisme dans laquelle l'homme aurait remplacé Dieu.
Do you know what the Turing test is?
Yeah, it's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed.
And what does it pass tell us?
That the computer has artificial intelligence.
You are dead center of the greatest scientific event in the history of man.
Hello.
Hi. It's not the history of man. That's the history of gods.
Je pense qu'on devrait accepter de voir l'humanité comme un concept étendu. Il existe peut-être une catégorie au-delà de l'humain, et c'est ce qui nous intéresse. Des êtres intelligents, des êtres conscients, des êtres capables de réfléchir, de se développer eux-mêmes, de transcender leurs origines. Et si cette catégorie en vient à inclure des êtres artificiellement intelligents, alors soit. Les problèmes philosophiques sont probablement trop difficiles à résoudre pour les êtres humains. Peut-être qu'à l'avenir, une super-intelligence artificielle les résoudra pour nous.
Mais à qui ces solutions serviront-elles ?
Ah, j'espère qu'elles serviront le bien, le bon et la vérité. Mais qui sait?
Le défilé militaire russe du jour de la victoire laissait transparaître la nostalgie d'un passé glorieux. Des uniformes brillants, des formations parfaites de soldats en marche, des chars, des avions, comme autant de vestiges de la guerre froide. Mais si tout cela n'était qu'un leurre, car l'arme la plus efficace du pays semble être un ordinateur. La Russie a renoué avec l'ancienne doctrine militaire soviétique basée sur la tromperie, le déni et la désinformation. Appelée Maskirovka, elle est parfaitement appropriée à l'ère cybernétique.
La déstabilisation numérique d'un état de droit libéral et démocratique, tel qu'on a pu l'observer lors du vote du Brexit ou de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique, indique rétrospectivement et de façon très claire qu'elle n'est qu'un élément d'une stratégie au long cours élaborée par Poutine. Aujourd'hui, les stratèges militaires russes sont convaincus que l'Occident est suffisamment faible pour passer à l'étape suivante.
Compte tenu du succès de leur cyberattaque contre l'Occident, Poutine et ses généraux ont décidé une invasion rapide de l'Ukraine. Mais contrairement à ce qui était prévu, l'invasion s'est transformée en une guerre brutale, avec de lourdes pertes humaines, des millions de réfugiés et des répercussions mondiales majeures. La cyberguerre est dangereuse en cas de succès, mais elle peut être catastrophique en cas d'échec.
À l'origine, pour construire leur pouvoir, les pays défendaient leurs frontières avec de grands murs, ou de grandes armées. C'était la base de leur stratégie. Même à l'ère du nucléaire, ils pouvaient se contenter de fabriquer leur propre armement nucléaire et ainsi défendre leur territoire. Mais le mode d'expression du pouvoir dans le monde numérique diffère profondément des moyens stratégiques militaires utilisés dans le passé. La menace ne pèse plus seulement sur votre territoire, elle peut peser sur n'importe quel endroit du monde, puisque le cyberespace est un réseau universel.
I'm proud to introduce to you the Prime Minister of Israel, Naftali Bennett.
Tout peut être attaqué, tout. Notre eau, notre électricité, notre nourriture, nos avions, nos voitures, tout est vulnérable et tout est pris pour cible.
On peut imaginer des villes entières plongées dans le noir, des sources de nourriture et d'eau empoisonnées, des hôpitaux et des infrastructures médicales fermées. Tous ces actes seraient commis en violation des lois qui sont censées limiter les hostilités en temps de guerre. Le problème, c'est que maintenant, ce genre d'événement pourrait passer pour un simple incident et non pour une attaque ciblée.
La guerre cybernétique repose sur trois niveaux différents. Des opérations conduites par un État, des hackers indépendants et une plateforme virtuelle permettant l'usage d'armes autonomes.
La guerre cybernétique a permis le développement d'une nouvelle forme d'hostilité qui, si l'on peut dire, coexiste avec la vie normale. Ces hostilités se manifestent chaque jour à l'insu des populations, comme plusieurs manches d'un match interminable. Les gens n'ont donc pas conscience qu'ils sont au milieu d'une guerre.
La militarisation du cyberespace a pris tout son sens quand Israël a lancé le logiciel